Ve République, anatomie d'un régime en crise.
Absence de majorité, compromis difficile, coalition fragile, censure. Longtemps gage de stabilité, la Ve République est aujourd'hui fragilisée comme jamais depuis son origine en 1958. Saura-t-elle, comme par le passé, surmonter ses difficultés ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec la spécialiste de la Ve République, la juriste Anne-Charlène Bézina.
Épisode 6, 2022. La Ve République peut-elle survivre à l'absence de majorité ?
Il faudra bâtir, comme je l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert, si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation qui concerne toutes les forces politiques, à commencer par la majorité présidentielle, mais aussi toutes les autres. Emmanuel Macron, le 22 juin 2022. Dernier épisode de notre conversation dans ce podcast avec Anne-Charlène Bézina, l'autrice de cette constitution qui nous protège. Là, c'est chez Ixo, là, cette constitution, elle est mise à mal. Mise à mal par quelque chose d'inédit. Dans les temps que l'on vit, c'est un président qui n'a plus de majorité. Dans l'épisode précédent, tu nous disais le quinquennat, c'est on fait coïncider la majorité présidentielle et puis quelques semaines plus tard, élection législative qui lui donnait la majorité. Sauf qu'en 2022, patatras, le président est réélu, mais il n'a pas la majorité absolue pour gouverner quelques semaines plus tard.
Je crois que les parlementaires, les oppositions, les membres de la majorité, les analystes, n'ont pas forcément mesuré en 2022 l'effet de séisme, en réalité, qu'on vit là. Et je crois qu'en fait, c'est un effet de séisme qui est, tu sais, comme les séismes le sont, avec des vagues, comme
ouais,
ça.
Des répliques. Et
des répliques
ouais.
Exactement, c'est le mot que je cherchais. Or, en réalité, si on remonte, je pense que 2017, l'élection d'Emmanuel Macron est peut-être le moment où ça commence à craquer dans l'édifice de la cinquième. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron est un jeune président, déjà, bon alors, Valéry Giscard d'Estaing l'était aussi, mais alors lui, il bat le record, et puis un jeune président qui a vraiment fait son élection présidentielle en quelques semaines, en réalité.
Oui.
Il était ministre des Finances de François Hollande, il arrive en fait à ne pas être comptable du bilan de François Hollande.
Parce qu'il démissionne.
En démissionnant, en créant son propre mouvement, en créant une dynamique qui est finalement idéologique. Je veux être le parti du dépassement. Il réutilise le terme du général de Gaulle dans la conférence de 64 en disant qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Et la théorie du dépassement, c'est finalement un centrisme un peu radical. C'est-à-dire, on va aller prendre dans les partis de gouvernement les meilleures idées, de droite, de gauche. Mais ça, c'est un effet assez mécanique de notre parlementarisation. En France comme partout ailleurs, quand on gouverne au centre, les oppositions s'extrémisent des deux bords de l'échiquier. Et donc, une gouvernance au centre amène à une extrême droite d'opposition et à une extrême gauche d'opposition. Même si les deux n'utilisent pas ce terme-là. Et c'est vrai que c'est particulier d'utiliser les termes d'extrême pour l'un, pour l'autre, oui, idéologiquement, pour plein de raisons. Mais on va dire qu'il y a une forme de radicalisation de toutes parts. En 2017, cette théorie du dépassement, c'est ça. C'est-à-dire, le premier gouvernement d'Emmanuel Macron est un gouvernement de dépassement. Nicolas Sarkozy a déjà essayé, hein, on l'oublie, en 2007. Il débauche Bernard Kouchner, notamment. Il essaye de proposer une France un peu plus ouverte dans son gouvernement, ce qui peut être quelque chose d'intéressant, puisqu'on l'a dit, hein, de Chirac
oui,
en 2002.
Oui, la cohabitation s'appelait aussi.
Il n'y parvient pas en 2002 à élargir la base et à prouver qu'il y a une forme de tentation de ne pas aller vers les extrêmes. Emmanuel Macron, en 2017, dit « Je serai le président qui devra lutter contre les extrêmes ». Il est assez conscient, je pense, de cette bascule du temps.
Parce qu'il a, avec ce centre radical et assez large, dévitalisé la droite et la gauche, en reprenant des éléments les plus modérés, peut-être de la droite et de la gauche, ne laissant à droite et à gauche que les éléments de radicalité.
Exactement. Tu sais, sous la cinquième, nos familles de droite et nos familles de gauche sont composites. On l'a vu, on en a parlé déjà, UMP, gauche plurielle, oui, RPR. On pourrait reprendre tous les termes de rassemblement, finalement, de petits groupuscules d'idées. C'était ça, nos partis sous la cinquième. C'est-à-dire que c'était des poupées russes, tu vois, la grande matriotchka avec à l'intérieur mais des millions de représentativité, locale notamment.
Mais est-ce que, pour toi, la Constitution, elle impliquait une droite et une gauche ? Et si oui, en quoi ?
Pas nécessairement, je n'en suis pas sûre. Je pense que le centre pouvait avoir sa place. Regarde ce qui s'est passé avec Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Finalement, une gouvernance UDF n'a pas particulièrement changé le visage de la
D'accord.
Constitution. En 2017 non plus, finalement, Emmanuel Macron utilise la Constitution comme ses prédécesseurs. Mais ce qui me semble important, c'est de se dire que la Constitution, à partir du moment où on ne va plus avoir le dogme du bipartisme et où on ne va plus avoir finalement le dogme d'une gouvernance qui peut se faire avec une alternance facile, va devoir travailler avec une notion qu'on a un peu oubliée, qui est celle de majorité relative.
Oui.
C'est pas la première fois qu'on la rencontre. 58, on l'a dit, la majorité est courte. 88, majorité relative de Rocard. Et finalement, on l'oublie en 2022. Quand on arrive en 2022, c'est un peu plus violent. Parce que Elisabeth Borne n'est pas Michel Rocard. Elle n'a pas la capacité d'aller vers l'extrême gauche ou d'aller vers le centre avec les fameux stéréo-Dolby dont nous parlait Rocard. C'était pas possible d'aller vraiment s'élargir de son côté. Parce qu'en fait, quand elle a ses 200, à peu près 40-50 sièges, elle a presque déjà tout le monde autour d'elle.
Oui.
Donc, il faut soit qu'elle aille chercher une variable chez les Républicains, et c'était vraiment ce groupe qui était conçu comme le pivot au soir des résultats des élections législatives de 2022. Si la stéréo se faisait pas avec les LR, en quelque sorte, il y avait une cornérisation de cette majorité relative avec une seule gouvernance possible, la gouvernance avec du parlementarisme dit rationalisé. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, ça.
Non.
Mais
ça veut dire
l'ADN
quoi, ça
de la Ve République, c'est un régime parlementaire rationalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Debré et De Gaulle veulent un régime parlementaire, mais ils veulent un régime parlementaire qui tienne la stabilité institutionnelle. C'est un communiqué de presse d'Emmanuel Macron qui nous en a rappelé l'existence en août 2024. Ce qui se passe, c'est que le parlementarisme rationalisé, on n'est pas les seuls. Espagne, Allemagne. C'est l'idée que quand on a des majorités parlementaires, on va quand même pouvoir avoir un Premier ministre qui garde le lead, qui peut les discipliner. Et des votes bloqués, des moments où justement on va dire « stop les amendements, maintenant c'est moi qui travaille, il faut que j'y aille ». Et ça, ça existe dans la Ve République, mais quand tu as une majorité relative, en fait, le risque, c'est presque qu'il n'existe plus que ces outils-là. Parce qu'il est impossible de faire passer le moindre texte. Et surtout, le nerf de la guerre, le fonctionnement de l'État, les textes financiers. Et les textes financiers peuvent, on l'a dit, depuis 2008, le 49-3 a été réduit. Mais pour les textes financiers, on l'a gardé, parce qu'on s'est dit on ne peut pas fonctionner sans budget. Et donc, on a gardé l'article 49-3 pour les textes budgétaires. Elisabeth Borne s'use en 49-3.
Mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, je ne vais pas m'appesantir sur une situation qui n'a pas changé et que chacun connaît. Notre pays a besoin d'un budget et les oppositions ne souhaitent pas trouver de compromis avec nous pour l'adopter.
S'il vous plaît, Madame Chiquérou.
Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie.
On voit bien qu'on est dans une nouvelle théâtralisation de la manière de faire au sein de l'Assemblée nationale. On n'a pas perçu l'idée, pas forcément des compromis, mais ne serait-ce que l'idée de l'élargissement des bases, de la manière un petit peu... Tu sais, sous la 4e République, on avait le docteur Queuille, qui était un de nos anciens présidents de conseil, qui disait « il faut savoir en politique faire le gros dos ». Et il appelait ça des majorités de gros dos, parfois, certaines majorités qu'il allait chercher, en acceptant des éléments qui n'étaient pas les siens. Mais parce que, finalement, il fallait le faire.
Ouais, on est passé des majorités de gros dos à des minorités de gros vent. Parce qu'aujourd'hui, le vent est en face. Et le troisième temps, tu disais 2017-2022, c'est 2024, avec l'annonce surprise de la dissolution.
Françaises, Français, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Comment est-ce que la constitutionnaliste de la 5e, qui aime le temps long, a regardé cette dissolution le soir du résultat des élections européennes ?
Je l'ai trouvé profondément hyper présidentielle, cette dissolution. Parce que finalement, on se rend compte que c'est le résultat d'un homme face à son peuple. C'est ce qu'a voulu le général de Gaulle. Mais l'art de la consultation, c'est aussi l'art de sentir le moment. Tu sais qu'en Grande-Bretagne, on dit souvent qu'il n'y a pas vraiment d'échéance électorale. En fait, en Grande-Bretagne, c'est les dissolutions qui donnent le temps parlementaire. C'est-à-dire que c'est au Premier ministre de sentir quand sa base ne le soutient plus ou quand le peuple a besoin de revenir aux urnes. Et c'est comme ça qu'on établit le temps parlementaire en Grande-Bretagne. Sentir le temps, C'est quelque chose qui, le 9 juin 2024, moi, ne me semble pas être le bon moment. C'est-à-dire que, en fait, en 2024, il y a une très forte tension de la majorité relative autour des chiffres de la dette, autour de notre futur budget 2024. En réalité, depuis le début de l'année 2024, on sait qu'on va aller dans un mur financier. Et les oppositions, y compris les LR, disent « si ce budget ne nous convient pas, le gouvernement sera renversé en décembre 2024 ». Et je crois que le président prend peur un peu face à cela en se disant « il faut que je dissolve avant décembre 2024, sinon on va se retrouver dans une situation de shutdown ».
Est-ce que c'est un geste gaullien ? Dans un épisode précédent, tu me disais que le président le plus gaulliste, c'était peut-être François Mitterrand. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron ne s'inscrit pas là-dedans ? Parce que tu as évoqué le dépassement, ni gauche ni droite. Ce geste très présidentiel de la dissolution, est-ce que on n'a pas là un décalque quasiment d'une fonction très très gaullienne de la présidence ?
C'est possible, mais encore une fois, faut-il sentir ne serait-ce que la date, le moment ? Pourquoi le soir des élections européennes ? C'est vraiment là qu'il y a peut-être un hiatus.
Tu veux me dire, c'est pas la dissolution de fin mai 68 ?
C'est pas la dissolution. Tu sais pourquoi ? Parce que la dissolution de 68 et de 62, c'est une crise sociale que le général de Gaulle arrive à théâtraliser dans une crise politique en sa faveur. Or, en réalité, là, il n'y a qu'Emmanuel Macron qui voit la crise. En réalité, le peuple n'a pas eu le temps de la sentir. Peut-être que si, justement, un gouvernement était tombé, que si le budget d'austérité était vraiment arrivé, si il y avait eu une forme de colère qui était montée dans la vie politique, peut-être que cette crise, elle se serait matérialisée et que le recours à la dissolution serait devenu légitime. Alors que là, finalement, le soir, Emmanuel Macron, dans son discours du 21h, parce qu'aux 20h, on a les résultats et à 21h, on a une dissolution qui nous est annoncée par le même média. Donc, on est tous un peu saisi. Eh bien, Emmanuel Macron donne deux motifs. Le premier, la montée de l'extrême droite. Il l'a dit, là, ça atteint les Européennes, ça peut devenir dangereux pour l'Union en tant que telle, et donc j'estime qu'il faut que je teste la population française pour savoir jusqu'à quel point elle en veut de cette extrême droite dans les rouages du pouvoir interniste. C'est-à-dire, est-ce que nous, pour notre gouvernement, on peut vraiment imaginer demain qu'il soit à Matignon. Et il y a peut-être une volonté de se dire, si je les ai à Matignon alors que j'ai encore la présidence, je vais pouvoir casser la montée du RN. Ce qui, à mon avis, est une très mauvaise interprétation de la Constitution. Parce qu'on l'a vu avec la cohabitation. Quand un Premier ministre a sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, rien ne peut l'arrêter. Donc, c'est une logique que je comprends mal, la première raison. La deuxième raison, elle est tirée de la fièvre. Il dit, il y a une fièvre parlementaire, il y a une fièvre qui s'est emportée du Parlement et qui vous agace, qui vous pose des problèmes de légitimité. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, les images sont violentes. Réforme des retraites, loi immigration, on est à plein de petits retors de notre Constitution. Il y a des usages du vote bloqué qui sont là juste pour interdire les uns de parler. On est vraiment dans une assemblée théâtrale. Ça nous coûte, hein, dans notre image à l'international. Il faut savoir, quand on parle aux journalistes étrangers, ils ne reconnaissent plus notre Assemblée nationale qui a fait quand même notre fierté républicaine. Donc, l'argument tiré de la fièvre, il est probant, mais sauf que les Français n'ont pas eu le temps de le voir. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ce soir des élections européennes, c'est l'Assemblée nationale qui paye, en quelque sorte.
Comment est-ce que tu intègres alors, du coup, la troisième étape, 2024, avec la censure d'un gouvernement ? Est-ce que là, ça signe pas, j'aime pas ces grands mots, mais la fin de la cinquième ?
Moi, je ne le crois pas. Notamment parce que justement, on est dans la suite de l'effet de séisme. 2017, on gouverne au centre. 2022, on apprend la majorité relative. Et à mon avis, en 2024, on va avoir la tripartition de l'Assemblée nationale qui est plus que jamais réelle. Mais en fait, 2024, c'est 2022 en mieux ou en pire, hein, suivant comment on le voit. C'est-à-dire que c'est vraiment les trois blocs qui se font face. Et si on n'apprend pas à travailler avec ça, en fait, on va vers la chute. Pas forcément de la Ve République, mais en fait de notre manière de faire du parlementarisme. Et moi, je crois pas que c'est la fin de la Ve, parce que la Sixième, ça serait quoi finalement ? Ça serait une République.
Beaucoup en parlent de la Sixième.
Beaucoup en parlent de la Sixième, mais comme une République plus parlementaire. Tu sais, c'est vraiment toujours l'idée, c'est de se dire on va redonner des droits au Parlement qu'on a trop corseté. Pourquoi pas ? Mais avec un Parlement trifracturé, en quelque sorte, comme on l'a et comme l'opinion l'est, redisons-le. C'est-à-dire qu'en 2025, en 2026, on a le sentiment qu'il y a des fractures françaises. Tu sais que maintenant, c'est un terme à la mode, mais il y a quand même des éléments d'urgence chez les Français qui les traversent et qui font que c'est sociologique ce qui se passe aujourd'hui.
Et c'est pas aussi l'une des clés de la crise de notre Constitution aujourd'hui que des électeurs qui veulent de plus en plus des résultats à court terme, parce qu'il y a des crises multiples et des problèmes complexes, et une constitution qui, par définition, est lente dans la résolution des problèmes, du débat démocratique, du débat parlementaire. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de contexte, de moment ?
Alors, c'est paradoxal ce que tu dis, parce que justement, la Constitution de 58, elle avait été vécue comme la plus efficace de toute notre histoire,
oui,
parce qu'on pouvait aller vite.
Oui.
Parce que justement,
mais aller vite en 58, est-ce que c'est aller vite en 2024 ?
Alors, pour le coup, c'est-à-dire que quand tu as un président, un premier ministre, une Assemblée nationale, un Sénat de la même couleur,
là,
tu
oui.
peux aller très vite. L'idée que l'Assemblée nationale soit fracturée, ici, va nous forcer à aller plus lentement. Mais pas forcément. C'est-à-dire que si on a une nouvelle manière de faire de la politique, alors on nous dit souvent, les Français ne deviendront pas les Allemands, et c'est une réalité, il ne faut absolument pas que ce soit le cas. Notre Assemblée nationale, elle a vécu de très belles pages politiques dans une tripartition. Si là, on en arrive à une forme d'intoxication à la motion de censure, en se disant finalement, ça devient tellement facile que dès qu'on n'est pas d'accord, on appuie. D'accord ? Si on en arrive là, oui, ça deviendra une crise de régime, oui, ça deviendra une crise institutionnelle. Mais ça prouvera aussi que tous les autres régimes qu'on pourra penser ne nous amèneront pas forcément à la sortie de l'ornière. Imagine-nous avec un régime américain. Le président de la République ne peut plus du tout communiquer avec le Congrès. Nos trois blocs, tout seuls, ils font quoi ? Ils arrivent à rien faire passer, c'est du shutdown, c'est-à-dire que finalement, on est en otage entre nos deux grands organes. Si on fait une république plus parlementaire, où est-ce qu'on va apprendre la culture du consensus ? Si on fait plus de proportionnel et qu'on n'a pas la culture partisane, comment est-ce qu'on ancre nos partis dans nos régions pour créer un scrutin proportionnel efficace ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est-à-dire qu'on peut changer les institutions, et on peut le faire même en gardant la cinquième, mais il faut le faire avec un apprentissage d'une nouvelle culture politique.
Merci Anne-Charlène Bézina pour
Merci
ces
à
mots
toi, Thomas.
Qui, je pense, sont rassurants ou inquiétants ?
Moi, j'espère qu'ils sont rassurants parce que, tu vois, ça veut dire que les institutions peuvent pas tout, mais que les hommes politiques peuvent beaucoup et la France le mérite. Les Français, finalement, ils ont des urgences, tu l'as dit. Et je crois que, justement, si on fait un peu moins de politique, tu te souviens, le lassisement
oui.
de la cohabitation. Si on regarde les débuts de la cinquième, il y a 6 lois, il y a 6 décisions du Conseil constitutionnel. Donc, si on fait moins, qu'on prend plus de temps, on peut faire mieux.
Merci Anne-Charlène.
Cinquième République, anatomie d'un régime en crise, un podcast original de France Inter.